Benoît Peters, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes très heureux de vous accueillir, même à distance, et vous faites paraître en cette rentrée un livre sur Sándor Ferenczi, une biographie Sándor Ferenczi, l'enfant terrible de la psychanalyse. Alors, on vous connaît depuis de nombreuses années, à la fois comme scénariste de bande dessinée, à la fois comme éditeur aussi, et puis vous avez une activité importante de biographe. Vous avez fait une biographie évidemment d'Hergé, très fameuse, une biographie de Derrida, qui était un travail au long cours il y a quelques années, plus récemment une biographie de Paul Valéry, et là, vous revenez avec une biographie de Sándor Ferenczi, dont on verra que par ailleurs, elle est un objet, elle est un texte important, elle est aussi un objet tout à fait intéressant. Alors, pour dire les choses un peu sèchement, qu'est-ce qui vous a semblé en 2020 nécessaire de faire une biographie de Ferenczi? Pourquoi c'est pour vous le moment d'évoquer cette figure qui est souvent un nom, mais un nom qu'on rattache difficilement à une pensée?
Oui, Sándor Ferenczi, pour beaucoup de gens, c'est un des proches de Freud, un disciple hongrois. On associe à Ferenczi le titre Thalassa. Mais peu de gens sont capables de dire vraiment qui il était, ce qu'il représente. Moi, je me passionne pour Ferenczi depuis assez longtemps, en fait, depuis la parution du premier volume de sa correspondance avec Freud. C'était dans les années 90, un gros volume, et je suis entré dedans avec passion. Ça mêlait l'histoire des idées, le choc de deux personnalités, le rapport entre un maître, son disciple, la possibilité de s'émanciper, et en même temps une histoire d'amitié, une histoire d'amour entrecroisée. Et donc à travers cette correspondance, puisque deux autres tomes sont parus après, j'ai découvert Ferenczi dans ses différentes facettes, son magnifique journal clinique, qui est un texte qu'il a écrit tout à la fin de sa vie, et puis les articles, et notamment les derniers articles très controversés, du moment où Ferenczi commence à se détacher d'une certaine orthodoxie freudienne, et ces articles ont été à l'époque mal considérés, ils ont précipité la rupture avec Freud, et aujourd'hui ils sont la part la plus vivante de l'œuvre de Ferenczi, notamment sur la question ô combien contemporaine des enfants abusés. Alors, tous ces thèmes-là me tournaient dans la tête depuis longtemps, mais je ne voulais pas, et je crois que je ne pouvais pas, faire une biographie tout à fait classique, comme je l'ai faite pour Hergé ou pour Derrida, c'est-à-dire une biographie qui commence avec l'enfance, qui couvre toute la vie, qui traite tout chronologiquement. Parce que les archives ne sont pas aussi complètes, beaucoup ont été détruites, beaucoup ont disparu, et aussi parce que j'avais envie d'axer assez vite le livre sur des problématiques qui me touchaient, donc je dirais que c'est un portrait. C'est un portrait biographique mêlé un peu d'un essai, puisque s'intéresser à quelqu'un comme Ferenczi, c'est aussi s'intéresser évidemment à son aventure dans la psychanalyse, à cette période où la psychanalyse est en train de se chercher, de s'inventer, de définir ses règles, parfois de manière un petit peu étrange. Et c'est donc cette histoire-là que j'ai voulu raconter par un biais qui est assez narratif. Somme toute.
Oui, le livre alterne, effectivement, on suit à la fois le récit de l'aventure de Ferenczi et on suit aussi l'aventure aussi partiellement de votre rapport à Ferenczi. Mais peut-être justement pour commencer par la fin, ce qui me semble important, c'est d'essayer de comprendre pourquoi c'est aussi dans un moment où la psychanalyse n'a plus le rôle social qu'elle avait, on va dire, il y a peut-être 30 ou 40 ans, et qu'en même temps que vous racontez la naissance de la psychanalyse, parce que c'est une aventure intellectuelle assez extraordinaire, vous la racontez aussi à un moment où on va dire qu'elle est moins bien portante, au moins en termes de présence sociale. Il y a toujours des psychanalystes, évidemment, et toujours des groupes, toujours des réflexions. Et que l'autre point qui est aussi important, c'est que vous partez aussi avec quelqu'un qui a une image très compliquée, même au sein des psychanalystes, puisque disons que très rapidement, quand s'installe l'histoire officielle du mouvement psychanalytique, il y a l'idée que c'est un peu le vilain petit canard, c'est celui qui aurait pu être le vrai héritier et qui finalement a fini fou, pour reprendre ce que raconte évidemment le grand biographe, le premier biographe, Jones.
Oui, alors le statut de la psychanalyse effectivement a bougé, elle a été l'objet d'attaques souvent injuste et excessive. On se souvient du pamphlet de Michel Onfray sur Freud, du livre noir de la psychanalyse, etc. Quand j'étais étudiant, la psychanalyse était très haute. Et pour un étudiant en philosophie, la psychanalyse faisait vraiment partie de notre approche. La linguistique, la psychanalyse, l'anthropologie de Lévi-Strauss, c'était des choses qui nourrissaient la philosophie. Moi-même, je me souviens que je m'échappais régulièrement de mon cours officiel pour aller écouter Lacan. Et Lacan, même si je ne saisissais pas tout de ce qui se disait là, fascinait. Me fascinait, mais fascinait beaucoup. Et un philosophe comme Derrida, par exemple, a aussi intégré dans sa démarche philosophique la psychanalyse en tant que pensée. Il se trouve, pour toutes sortes de raisons, que peut-être l'aura de la psychanalyse est un peu moins forte aujourd'hui, que sa présence sociale, comme vous le disiez, est un petit peu plus controversée. Raison de plus pour s'intéresser à ce moment où elle s'inventait, où elle se cherchait, où elle était dans une phase d'invention, et raison de plus, surtout, de s'intéresser à cette figure un tout petit peu marginale, même si Ferenczi a été le correspondant le plus proche de Freud, et on peut dire, parmi la communauté des premiers analystes, son ami le plus direct, c'est le seul avec lequel Freud se confie, se raconte, vraiment fait part de ses doutes, etc. Mais à la fin de sa vie, il a été rejeté, et dans la biographie historique de Freud, celle qui a longtemps fait autorité, celle qui a longtemps prévalu, par Ernest Jones, en 3 volumes, Ferenczi est maltraité. Alors il est maltraité par petites touches dans le tome 2, dès qu'il apparaît, il y a des adjectifs, des petites anecdotes qui essayent de minorer sa place. Et alors dans le tome 3, effectivement, la fin de Ferenczi, comme la fin d'Autoranque, sont décrites comme des trajectoires vers le délire, vers la paranoïa, etc. Assez étrange d'ailleurs de penser que deux des plus proches disciples de Freud n'auraient pas été détectés par lui comme des personnalités instables. Il se trouve que cette biographie, on sait aujourd'hui qu'elle est assez contestable, assez malveillante, ne serait-ce que pour deux raisons. La première raison, c'est que Jones était un personnage important de l'histoire de l'analyse, et donc il lui était difficile d'être objectif en tant que biographe de Freud. Il avait envie de mettre en valeur l'école anglaise, de mettre en valeur l'association psychanalytique telle qu'il l'avait présidée, de mettre en valeur une certaine orthodoxie. Bon, et donc, quand il raconte les évolutions par des gens qui étaient peut-être plus des inventeurs de concepts ou des inventeurs de nouvelles méthodes que lui, il ne leur fait pas la part belle. Et puis, autre chose, il avait entamé une analyse avec Ferenczi, qui a été interrompu par la Première Guerre mondiale, et il se garde bien dans sa biographie de Freud d'évoquer le fait que peut-être son point de vue sur Ferenczi a aussi pu être influencé par la situation transférentielle vécue dans l'analyse, et surtout dans une analyse interrompue. Ferenczi et Jones s'étaient battus l'un et l'autre pour la présidence de l'Association psychanalytique internationale, et Jones, une fois qu'il est devenu président, a joué, on peut le dire, un rôle de censeur ou de gardien du temple, et a notamment empêché, peu après la mort de Ferenczi, la publication de ses derniers articles, a craint qu'un certain nombre de textes circulent, soi-disant parce que c'était des textes délirants qui ne faisaient pas honneur à Ferenczi, mais probablement parce qu'il sentait que ces textes contenaient des réflexions extrêmement fortes, extrêmement stimulantes. Et il a fallu un immense travail où la France a été très très importante, et notamment une grande psychanalyste qui s'appelle Judith Dupont, qui a animé le groupe du Coq Héron, qui était, elle, par raison familiale, l'ayant droit de Ferenczi, et qui a entrepris cet extraordinaire travail d'exhumation de l'œuvre. C'est grâce à elle, d'ailleurs, que mon livre peut être aussi bien illustré, parce qu'elle nous a fait confiance, elle a prêté un certain nombre de documents, et grâce à elle, les textes de Ferenczi sont sortis souvent en français d'abord, et puis à nouveau en allemand et en anglais. Et finalement, la grande reconquête qui reste à faire aujourd'hui, c'est celle de la Hongrie, où Ferenczi, immense figure, est aujourd'hui très méconnu.
Oui, parce que, comme vous le disiez, il y a aussi des contingences effectivement historiques qui sont celles de l'histoire de la Hongrie, qui font que l'œuvre, les archives de Ferenczi ont été beaucoup détruites ou très, très difficilement accessibles. Alors, vous avez dit une chose très importante justement dans le rapport à Jones, c'est le fait que Ferenczi est un inventeur de concepts. C'est-à-dire que c'est quand même parmi le premier cercle de psychanalystes qui travaillent, enfin qui sont des disciples de Freud, avec tout ce rapport très compliqué de disciples qui à la fois veulent accompagner, dépasser, donc finissent toujours plus ou moins rejetés par le maître. Et parmi justement, parmi ces concepts psychanalytiques, alors est-ce qu'il y en a certains qui vous semblent particulièrement importants? Et on peut souligner par exemple que pendant la Première Guerre mondiale, c'est l'un des premiers à mettre clairement au jour la question des névroses de guerre, et très tôt.
On peut dire que Ferenczi, oui, est l'inventeur ou quasi l'inventeur, en tout cas celui qui a poussé le plus loin l'analyse des névroses de guerre, c'est-à-dire là où on pensait qu'il y avait des simulateurs, des tirs au flanc qui voulaient se faire réformer. Ferenczi analyse les répercussions psychiques, par exemple de gens qui ont été très proches d'une explosion, d'un attentat, qui ont assisté à la mort d'autres, et qui développent des phénomènes qui ne sont pas du tout des phénomènes simulés. Et donc, ça a été un moment très important, parce que des médecins qui jusqu'alors avaient dédaigné la psychanalyse ont commencé à s'y intéresser, à sentir sa pertinence très concrète pour traiter des cas dont ils ne savaient absolument que faire. Alors, Ferenczi, il y a deux apports considérables, monumentaux et très contemporains. Le premier est du côté de la technique psychanalytique, car on peut dire que Freud n'a écrit qu'assez peu sur la technique psychanalytique, que ce n'était pas le sujet qui l'a intéressé le plus, et que rapidement, il a renvoyé vers Ferenczi, dont il reconnaissait que c'était un thérapeute hors pair, un thérapeute qui s'investissait de manière jusqu'au boutiste, enfin extraordinaire. Et donc, Ferenczi n'a pas arrêté de s'interroger sur la manière de faire bouger la situation analytique. Il a pensé le transfert, le contre-transfert, la résistance, mais il a pensé surtout la manière dont l'analyste lui-même devait être analysé. C'est une chose qui n'était pas évidente au départ. Et puis, il a mis au point peu à peu, et c'est tout à fait, lui, est caractéristique de sa pensée, et je suis très sensible, ce qu'il appelle l'élasticité de la technique psychanalytique, c'est-à-dire qu'au fond, c'est la théorie qui doit s'adapter à la pratique, c'est la théorie qui doit sans arrêt être remise en question, c'est le thérapeute qui doit être dans le doute. Ferenczi va aller jusqu'à pratiquer et théoriser l'analyse mutuelle, c'est-à-dire se laisser ponctuellement analyser par son analysant. Le mot analysant est d'ailleurs un mot forgé par Ferenczi lui-même, repris par Lacan. On croit souvent que c'est une invention de Lacan, mais analysant nous dit bien que ce n'est pas l'analyser, mais bien quelqu'un qui est en train de travailler, de faire, et que le plus essentiel dans l'acte psychanalytique, c'est finalement la relation qui s'établit et le caractère, je dirais, non paternaliste ou non pédagogique que l'analyse doit avoir. Donc ça, c'est un volet. L'autre volet, et qui est celui qui a créé les polémiques les plus vives, tourne autour de la question des enfants abusés, des abus sexuels, que Freud avait, au moment où la psychanalyse s'invente, donc vers 1897, Freud avait considéré que la plupart des récits d'abus qui lui étaient faits par ses patients, et surtout ses patientes, étaient des fantasmes. Et il dit, dans une lettre célèbre à Fliess, « J'ai renoncé à mes neurotica ». Neurotica, c'était l'explication qu'il donnait de cette source des névroses. Et donc, pendant longtemps, la tradition psychanalytique va, au fond, mettre en doute, ou en tout cas mettre en perspective, l'écoute de ces traumas. Or, nous savons aujourd'hui, hélas, des exemples récents nous l'ont montré, combien ces abus peuvent être fréquents, ont pu être fréquents dans toutes les sociétés, dans tous les milieux, qu'il s'agisse de violences sexuelles intrafamiliales ou par des éducateurs ou par d'autres personnes. Et Ferenczi, très tôt, se dit il faut écouter celui ou celle qui souffre et qui me parle. Cette parole doit être entendue, car au fond, une partie du trauma est constituée par ce que la personne a subi dans sa prime enfance, mais une autre partie essentielle du trauma vient du déni de l'adulte. Le déni parental pendant la petite enfance, qui aggrave, et quelquefois même d'une certaine façon, crée le caractère véritablement déstructurant de ce qui s'est passé. Et si l'analyste lui-même, beaucoup plus tard, prolonge le déni qu'il y a eu, alors l'analyse ne peut servir à rien et demeure absolument superficielle. Au fond, il y a quand même cette idée qui relie les deux, d'écouter l'enfant dans l'adulte, Et il y a un texte absolument magnifique et central de Ferenczi, tout à la fin de sa vie, qui s'appelle « Confusion de langue entre les adultes et l'enfant ». Et sans entrer dans les détails de ce texte qui est très fort et très important et qui va précipiter la rupture entre la communauté psychanalytique traditionnelle et Ferenczi, on peut dire que cette confusion de langue, c'est le fait que si l'enfant peut avoir une attitude séductrice par rapport à l'adulte, il est en recherche de tendresse, d'affection, d'une sensualité en partie non maîtrisée, et que lorsque l'adulte, se méprenant sur ce langage, y apporte une réponse directement sexuelle ou génitale, l'enfant ne comprend pas ce qui lui arrive. Et donc cette notion de confusion de langue, Ferenczi dit dans le sous-titre « Le langage de la tendresse est le langage de la passion », mais il faut entendre la passion dans le caractère violent qu'elle peut avoir, dans le caractère abusif, qui va laisser l'enfant en miettes la personnalité défaite. Ce sont des notions qui ont été retravaillées, évidemment, par énormément d'analystes depuis, et qui sont aujourd'hui prises au sérieux, et où l'apport ferenczien est considéré comme décisif. Et là, toutes sortes de débats qu'il y a eu ces derniers mois ou ces dernières années nous amènent à revenir sur cette pensée de Ferenczi et y voir quelque chose de non seulement éclairant, mais nécessaire et absolument contemporain. De même que la réflexion de Ferenczi sur la résilience, même s'il n'emploie pas le mot, ou le care, l'importance du soin, qui sont des problématiques très actuelles et qu'on trouve exactement formulées chez lui, notamment dans le journal clinique.
Les problématiques aussi qui sont de l'ordre de l'attention portée aux femmes et à la façon dont se pense véritablement à la fois la sexualité et la vie psychique des femmes, et où il y a des textes où il reproche son androphilie à Freud, dont où lui voit effectivement, comme vous dites, sa passion du soin fait qu'il a une sorte de, quand même, d'hypersensibilité, qui peut-être le perdra d'ailleurs, à la personne soignée, et qui donne peut-être aussi une vision beaucoup plus extensive de la complexité psychologique que celle que pouvait avoir Freud, qui finalement a aussi des schémas et des schémas qu'il appuie, quels que soient les patients.
Oui, il y a deux points sur lesquels Ferenczi s'est démarqué de Freud, et on peut dire est plus moderniste, plus proche de nous. Le premier, c'est la question de l'homosexualité. Très très tôt, avant même la rencontre avec Freud, Ferenczi, à plusieurs reprises, prend la défense des homosexuels qui étaient littéralement persécutés, hein, qui étaient vraiment écartés d'un certain nombre de fonctions, considérés comme des malades mentaux. Et donc Ferenczi, très tôt, dit « Non, c'est une manifestation particulière de la sexualité qui peut avoir son histoire chez un individu, mais qui en aucun cas ne relève d'une pathologie. » Et donc là, il y a une position neuve et forte et importante que d'autres psychanalystes et d'autres théoriciens de la psychanalyse mettront longtemps à intégrer. Et l'autre question, c'est effectivement revenir très tôt sur la question de la sexualité féminine et sur le regard androcentré que Freud porte. Et là, c'est pas seulement Ferenczi, c'est tout le groupe hongrois. Ferenczi a analysé, formé beaucoup, beaucoup de gens. Il a été l'analyste de Mélanie Klein. C'est lui qui a poussé Mélanie Klein vers la psychanalyse. Il a formé quelqu'un comme Michael Balint, qui a été très important. Et beaucoup de femmes psychanalystes aussi. Il a été proche de Lou Andrea Salomé. Et ceci l'a amené à remettre en question une approche assez traditionnel de la sexualité féminine autour de la question de l'envie du pénis, etc. Une sexualité se définissant entièrement par rapport à celle de l'homme, où il y a des lettres de Ferenczi tardivement qui disent « Oui, nous avons eu nos séances de séminaire, nous ne sommes plus tout à fait d'accord avec votre théorie là-dessus, etc. » Et Freud est un petit peu inquiet de ces libertés, mais évidemment, là aussi, toutes les évolutions, que ce soit depuis Françoise Dolto, Lacan et bien d'autres, toutes les évolutions de la théorie psychanalytique ont remis en cause des aspects daté de Freud. Il faut bien voir qu'il y a chez Freud un penseur extraordinairement inventif, capable de se remettre en cause à de multiples reprises, mais il y a aussi un homme du 19e siècle. Il y a une partie de la conception freudienne qui s'est faite très tôt. Et Ferenczi, par son entourage, par le fait qu'il est un peu plus jeune, par le fait qu'il a fréquenté d'autres types de gens, beaucoup d'artistes, d'intellectuels à Budapest, qui était une ville très vivante, Ferenczi, finalement, est davantage un moderniste. Et puis, je dirais que c'est quelqu'un qui a aussi une expérience de la vie plus difficile, plus douloureuse. Il a eu une enfance pauvre, une jeunesse difficile. Il a travaillé dans les hôpitaux pour indigents, il a travaillé avec les prostituées, etc. C'est pas quelqu'un qui a une approche, je dirais, embourgeoisée de la situation thérapeutique. Et il veut venir au secours de tous ceux qui en ont besoin, démocratiser l'exercice de la psychanalyse, la pratiquer en hôpital. Il est le premier aussi à l'avoir enseigné à l'université, parce que son idée n'est pas du tout de la réserver à une caste de personnes qui pourraient le faire vivre confortablement. Il lui arrivait d'ailleurs très souvent, et ça sera difficile pour lui, il lui arrivait souvent de ne pas se faire payer ou de ne plus se faire payer quand il voyait ses patients, ou surtout ses patientes, parce que ce sont avant tout des femmes qu'il y a chez Ferenczi, ne plus être en mesure de payer. Il avait aussi des comportements par moments extraordinaires et peut-être un peu fou, oui, de recevoir presque à n'importe quelle heure, de continuer l'analyse le week-end, le dimanche, d'emmener ses patients et ses patientes avec lui. Au fond, de ne pas accepter les limites que l'analyse traditionnelle, déjà à cette époque, était en train de faire. En même temps, je dis ces limites, mais dans la vie même de Ferenczi, puisqu'il a été impliqué comme personne, on sent très bien que les limites entre vie personnelle et vie intellectuelle, entre travail thérapeutique, vie familiale, vie amoureuse, que tout ça était très flou et que la psychanalyse n'était pas encore sûre de ces règles. Il y a des choses qui nous apparaissent aujourd'hui dans ce que je raconte comme des transgressions monumentales et qui, à l'époque, étaient encore en train de se chercher en tâtonnant. On s'analysait les uns les autres.
Oui, et puis, alors, c'est évidemment tout le cœur. C'est aussi le cœur de la vie affective de Ferenczi. Et c'est ça qui est passionnant. C'est aussi l'engagement affectif qui est le sien en permanence et qui fait qu'au cœur de son histoire, il y a cette histoire entre Gisela et Elma, effectivement, où il va passer peut-être quelques décennies à constamment hésiter entre une mère et sa fille et à analyser tour à tour, enfin surtout la fille, ce qui nous paraît complètement fou et qui a probablement aussi participé, on va dire, sur de légende noire de Ferenczi, occultant de ce fait aussi les grands apports que vous avez rapportés là. Et vous dites bien, alors, allez-y.
On ne mesurait pas à l'époque peut-être le risque d'engagement affectif total. Breuer, à l'époque des premières analyses des études sur l'hystérie, s'effrayait des élans amoureux des femmes qui se trouvaient dans son cabinet. Freud dit « Bon, moi-même, je n'ai jamais succombé, mais c'était tout proche ». Jung a vécu avec Sabina Spielrein, une de ses premières patientes, une histoire très compliquée qui a donné lieu à un film de Cronenberg, Dangerous Method. Et donc, Ferenczi ne se méfiait pas au départ. Il y avait l'idée que la psychanalyse était une chose merveilleuse, qu'il avait découverte, qu'il voulait propager, faire partager tout autour de lui à ses amis et donc à sa compagne, sa maîtresse, qui s'appelait Gisela, qui était une femme mariée. Il avait une liaison depuis très 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 longtemps avec elle, sans possibilité de l'officialiser, parce qu'elle voulait élever ses deux filles. Ils vivaient donc pas du tout ensemble, et il prenait Gisela comme confidente. Il lui faisait lire les textes psychanalytiques, il lui a fait rencontrer Freud, mais il pensait aussi qu'en couple, comme ça, on pouvait s'analyser. Et puis, il se trouve que la fille aînée de Gisela, Elma, avait un certain nombre de troubles physiologiques et psychologiques, et de Ferenczi a proposé très spontanément de la prendre en analyse. Sauf qu'elle est tombée rapidement amoureuse de lui, mais lui aussi. Et toute la question qui se pose à ce moment-là, et dans laquelle Freud va interférer constamment, c'est: s'agit-il d'une véritable histoire d'amour ou s'agit-il d'un pur amour de transfert, d'un amour suscité par la situation analytique? Alors, Freud dit, vous ne pouvez plus analyser Elma, il faut tout arrêter, envoyez-la-moi à Vienne. Il la prend à Vienne, au début il pose un diagnostic extrêmement sombre, et puis petit à petit, il dit, ben non, cette jeune fille, elle est bien, et peut-être qu'elle est vraiment amoureuse. Et Ferenczi, lui, se sent véritablement amoureux, désireux de fonder une famille, parce que ça... maîtresse Gisela est beaucoup plus âgée que lui, donc il est déchiré entre les deux femmes. La mère, Gisela, n'arrête pas de lui dire, mais épouse donc Elma, je resterai avec vous, je serai une amie, je serai bienveillante. Elle ne pose elle-même pas de limite, et cette histoire va durer des années, se terminera avec une pression de Freud assez forte, il faut le dire, assez stupéfiante quand on lit les lettres et les comportements. Bon, par moments, c'est vraiment les liaisons dangereuses. Ferenczi finit par épouser Gisela, mais le mariage n'est pas très heureux. Elma, elle, épouse un type de rencontre et va divorcer assez peu de temps après. Le mariage n'aura jamais marché. Et jusqu'à la fin de sa vie, cette femme, et là c'est admirable et très émouvant, va rester fidèle au souvenir de Ferenczi, et notamment lorsque Jones écrira dans sa biographie un certain nombre de perfidies ou de calomnies, essaiera de préserver la mémoire de Ferenczi en disant « Et si mon histoire doit être exposée au grand jour, si la correspondance doit sortir, eh bien, nous le devons, je le dois à la mémoire de Ferenczi, même si c'est douloureux pour moi. » Et donc, elle sera finalement un témoin extrêmement précieux, alors que elle a été ballottée, et d'une certaine façon, elle a été l'une des victimes de l'histoire. Alors, il est certain que ce choc dans sa vie personnelle, ce bouleversement très profond dans la vie de Ferenczi, dans celle de Gisela, dans celle d'Elma et de tout leur entourage, même de Freud, ça a pesé probablement sur la manière de réfléchir, sur la manière de concevoir l'analyse, et probablement aussi, ça a préparé le conflit avec Freud, puisqu'il restait quand même dans la tête de Ferenczi l'idée qu'il avait brisé la plus grande histoire d'amour qu'il aurait pu vivre, et peut-être aussi qu'il était allé trop loin dans un désir de possessivité par rapport à Ferenczi. Il passait régulièrement, par exemple, leurs vacances ensemble, et c'était le seul d'ici. Et alors, à un moment, il dit « Oui, peut-être que cet été, vous préférerez la ravissante jeune femme au vieux compagnon grisonnant. » Donc, on sent quand même que ce ne sont pas que des enjeux intellectuels, mais qu'il y avait véritablement là une sorte de conflit entre un rapport filial et cette relation amoureuse qui pouvait l'écarter de lui. Freud était de ce point de vue-là très étrange, parce qu'il était toujours animé d'une grande patience et d'une grande bienveillance par rapport à Ferenczi, mais en même temps, dès que Ferenczi était sur le point de s'émanciper, de prendre son autonomie, Freud lui disait, comme avec d'autres de ses disciples, « Oui, émancipez-vous, mais dans le bon sens. » Ne me trahissez pas, ne vous éloignez pas de moi. Or, c'est très difficile de dire à quelqu'un, on le voit dans les relations parent-enfant, par exemple, on ne peut pas dire à quelqu'un « émancipe-toi, mais reste dans la ligne droite ». Je pense que s'émanciper à un moment, c'est prendre le risque de passer au-delà. Et dans la pensée, c'est le cas, évidemment. On ne peut pas inventer à l'intérieur d'un cadre prédéfini. Et donc, chez Freud, il y a ce rapport extrêmement ambivalent et riche, et que j'ai essayé de montrer dans sa richesse, entre l'envie de pousser ses disciples à innover, il faut que la psychanalyse invente et innove, et en même temps la crainte que ce soit une dissidence comme celle qu'il avait vécue avec Jung et avec d'autres.
Et effectivement, alors vous rendez ça parfaitement, qui est l'aventure humaine, qu'est cette aventure-là, qui est à la fois une aventure humaine, une aventure intellectuelle, une aventure théorique, et aussi une aventure, on va dire, existentielle. Et vous, au début du livre, vous indiquez de façon très très forte en disant que il y a une sorte d'horizon quand même du côté de Freud qui est une forme d'inhumanité dans la distance, dans la théorie, etc. Et qu'à l'opposé, il y a aussi presque une impasse du côté de Ferenczi qui est à tout vouloir vivre de façon extraordinairement intense. On finit quand même par se mettre dans des situations invivables dans lesquelles finalement il s'est mis lui-même. Alors avant que nous finissions, j'aurais aimé quand même, ça me semble important qu'on dise un mot de Thalassa, qui évidemment souvent, enfin qui est le livre auquel on rattache le nom de Ferenczi, et qui est un livre malgré tout qui aujourd'hui pour le coup est lui comment dire, difficile à percevoir dans son sens, où c'est une articulation entre le biologique, une forme de lecture de Lamarck, et puis évidemment la psychanalyse naissante. Est-ce que vous voyez, en tant que lecteur d'aujourd'hui, un usage, une compréhension, quelque chose à faire de Thalassa? Est-ce que c'est un livre qui, pour vous, d'un point de vue théorique, est toujours actif?
Alors, Thalassa, c'est le premier livre de Ferenczi dont j'ai entendu parler, le premier que j'ai lu, puisque je me souviens que notre professeur de philosophie en terminale nous avait parlé de Thalassa. C'est une rêverie scientifique. Dans cette rêverie, il y a des choses très fortes et d'autres qui correspondent à un état de la science et de la recherche biologique assez daté. D'autant que Ferenczi s'appuie plus sur Lamarck que sur Darwin. Il partageait d'ailleurs la passion de Lamarck avec Freud. Il avait fait beaucoup de recherches là-dessus. Et l'idée, c'est au fond que le développement de l'espèce qui nous arrache peu à peu au milieu aquatique et nous fait nous adapter à la vie terrestre, se retrouve dans la vie psychique et dans la vie biologique de l'individu. Donc, dans le développement de l'individu, il y aurait comme une manière accélérée de reconstituer ce développement de l'espèce. Et il y a donc, évidemment, l'idée, oui, du retour, notamment à travers l'acte amoureux, du retour à cette fusion avec le milieu aquatique incarné par la mer, océan et, évidemment, la mère, la maman. Bon, c'est un texte qui est rempli d'intuition, mais je dirais que pour moi, c'est pas le Ferenczi qui me parle le plus. Ce qui me parle, c'est le risque qu'il a pris en faisant cela. C'est-à-dire l'extrapolation la plus audacieuse, disait Freud, de la théorie psychanalytique, d'une manière de penser le monde. Bon, Freud en a lui-même fait d'autres, par exemple dans Totem et Tabou, où il y a aussi une réflexion sociétale et anthropologique. Mais je crois que, tout comme Totem et Tabou n'est peut-être pas ce qui est le plus présent chez Freud aujourd'hui, Thalassa n'est pas pour moi l'enjeu majeur. C'est vraiment les enjeux majeurs, je les sens dans les articles tardifs, dans l'extraordinaire sincérité et vitalité de la correspondance avec Freud, et dans le journal clinique, qui est un texte de bilan, où il revient sur sa pratique, où il s'interroge lui-même, parce que s'il critique Freud, il se critique sans arrêt, il est le premier à remettre en question ses propres concepts, ses propres pratiques. Ce sont ces aspects-là qui me parlent. Et puis, je dirais que la fragilité même de Ferenczi en tant qu'individu, ses doutes, ses hésitations, ses engagements excessifs, ses peurs aussi, les moments où il reste soumis à Freud, tout cela me touche infiniment. Je n'ai pas voulu faire de lui la grande figure héroïque et de Freud, le maître intraitable et impitoyable, ne comprenant pas les choses. Non, il y a véritablement entre eux une relation qui se noue, qui est passionnante, qui est ce moment où quelqu'un ose aller au bout de ses intuitions, ose finalement se libérer, la dimension tragique étant que Ferenczi va mourir très jeune. Il meurt à 59 ans. Freud est malade depuis longtemps de son cancer, donc Freud n'arrive pas à être à l'écoute de la maladie qui s'empare peu à peu de Ferenczi, puisqu'il pense que c'est lui qui va mourir le premier. Freud continue d'être à la recherche d'un successeur, là où Ferenczi ne pourrait pas l'être. Et il y a dans les dernières lettres des échanges absolument extraordinaires, puisque Ferenczi, sur son lit de mort, en 1933, dit à Freud « Les nazis sont au pouvoir ». Ils le sont en Allemagne, ils vont venir en Autriche, mettez-vous à l'abri, vous devriez partir en Angleterre, vous devriez emmener vos proches, etc. Et Freud dit, mais que voulez-vous qui m'arrive? Mais vous vous inquiétez pour rien, mon cher Sandor, prenez soin de vous, etc. Et là, on s'aperçoit, et de la générosité de Sandor, qui par-delà la brouille, donne ce conseil à Freud, et de sa lucidité, puisque sur la situation historique aussi, lui qui avait été témoin de la montée de l'antisémitisme tout au long des années 20 en Hongrie, voit ce qui se prépare, et le voit dans sa gravité, là où bien d'autres psychanalystes mettront du temps à s'en rendre compte. Donc il y a là aussi une très belle dimension. J'aime cette histoire dans ses nuances, j'aime ces personnages dans leur complexité. Il n'y a pas pour moi un bon et un méchant. Il y a des moments où je suis du côté de Freud, il y a des moments où je suis vraiment avec Ferenczi, mais je pense que il mérite d'être découvert et non seulement lu, compris, mais aimé en tant que personne avec toutes ses fragilités et sa générosité.
En tout cas, Benoît Peters, merci beaucoup. C'est effectivement ce que vous faites avec cette biographie, où vous vous rendez compte de ce moment passionnant, incroyable et extrêmement touchant du moment de la pensée, de la naissance de la psychanalyse. Merci beaucoup.
Merci à vous.